Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours très agréable de venir parler à l'ANS de Lyon, qui est si belle, d'un point de vue architectural notamment. Alors, nous allons donc parler de l'évolution linguistique appliquée au latin. Le latin est un champ d'observation tout à fait remarquable pour l'évolution linguistique, puisqu'il est attesté à partir des premières inscriptions au 7e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au latin mérovingien au 6e et 7e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près sur 14 siècles. On peut donc espérer avoir là un champ d'observation pertinent pour juger des phénomènes d'évolution linguistique, d'autant que nous avons en outre des connaissances de ce qui s'est passé avant le latin, en amont de la chaîne diachronique, grâce à la grammaire comparée des langues indo-européennes, qui compare les langues d'une même famille, comme le sanskrit, la vieille langue de l'Inde, le grec ancien, l'arménien, le hittite, les langues celtiques, les langues baltiques, les langues germaniques. Et nous avons également une connaissance de ce qui s'est passé après la période de l'Antiquité, en aval de la chaîne diachronique, avec la diversification régionale et diatopique de la langue latine sur les divers territoires de la Romagna. Nous avons le témoignage des langues romanes dans leurs états les plus anciens jusqu'à l'époque contemporaine, et certaines langues romanes elles-mêmes, le français, l'espagnol, le portugais, ont donné lieu à d'autres langues dans certaines conditions historiques particulières, les créoles, du français, de l'espagnol, du portugais. La chaîne diachronique qui commence au moins 7e siècle avant Jésus-Christ s'arrête donc, en fait, dans les langues contemporaines, avec des bifurcations linguistiques dues à des facteurs géographiques, tout diatopiques d'une part, et d'autre part à des facteurs historiques et même politiques liés à l'établissement des unités politiques et des États au fil des siècles. À ce sujet, je voudrais raconter une anecdote que j'ai entendue dans la bouche d'un collègue spécialiste de linguistique espagnole. On lui demandait quand a commencé la langue espagnole. Et il a répondu « quand les légions romaines sont entrées dans la péninsule ibérique ». Donc, un fait historique. De ce fait, ce collègue reconnaissait la continuité linguistique entre le latin et l'espagnol contemporain, mais il reconnaissait en même temps la spécificité du latin parlé dans la péninsule ibérique, qui était liée notamment au substrat que constituent les langues qui étaient parlées là avant l'arrivée du latin, c'est-à-dire essentiellement l'ibère et le celtibère. Lorsqu'on pense à l'évolution linguistique, le premier facteur qui se présente à l'esprit, c'est l'évolution phonétique, et de ce fait, corollairement, l'évolution phonologique. On a parlé pendant longtemps, notamment lors de l'établissement de la grammaire comparée des langues indo-européennes, de loi phonétique. Le terme de loi impliquant des phénomènes réguliers et même systématiques avec une réalisation qui ne connaît pas d'exception. Mais nous parlons aujourd'hui de tendance plutôt que de loi, car ces phénomènes ne sont pas aussi systématiques que nous voudrions qu'ils soient. Et les linguistes, en outre, ne peuvent prétendre connaître l'ensemble des facteurs efficients dans un état de langue donnée. La théorie des variations linguistiques, au début des années 90, a fait faire de grands progrès en mettant en valeur un certain nombre de facteurs diastratiques, diatopiques, etc. Mais il y a certainement d'autres facteurs qui nous échappent pour l'instant. Les lois phonétiques, en effet, peuvent être contrecarrées et bloqué par d'autres facteurs efficients. Il faut concevoir, à mon avis, une situation donnée et les changements linguistiques comme un conflit entre plusieurs contraintes qui aboutit à une configuration optimale, c'est-à-dire éventuellement meilleure, sans être parfaite, et du moins la meilleure possible, compte tenu des circonstances. Les contraintes pesant sur une langue donnée à un moment donné sont rangées selon une hiérarchie. Certaines sont plus puissantes que d'autres, et chaque langue a sa propre hiérarchie. la force de certaines contraintes s'exerce et est visible seulement dans certains domaines de la grammaire. De sorte que, en théorie, le rôle du linguiste devrait être d'essayer de retrouver la configuration parfaite, d'une part, par opposition aux configurations optimales que la langue peut créer, et d'autre part, de retrouver l'ordre hiérarchique des contraintes qui pèsent sur la langue et le domaine où chacune de ces contraintes s'exerce. Alors, nous pouvons prendre un premier exemple, paragraphe 1, avec une contrainte qui me paraît essentielle, le bon fonctionnement du système morphosyntaxique, et c'est un exemple qui s'applique aux désinences nominales. Donc c'est le paragraphe 1 à la ligne 4. La finale de mot en latin est une position fragile, sujette à l'érosion. Et on observe dans les inscriptions latines archaïques pré-littéraires l'annuissement des consonnes S et M à la finale des substantifs. De sorte que, ligne 5-6, une graphie O peut représenter un nominatif singulier masculin en os, qui va donner plus tard « us » par fermeture des voyelles brèves en syllabe finale fermée, « dominus », ou un accusatif singulier en « homme » qui va donner « um »,« dominum ». On le voit dans l'inscription de la ligne 7, l'épitaphe d'un scipion, le « titulus », c'est-à-dire le nom du défunt qui est dans le tombeau, c'est « don Cornelio ». Et en latin classique, nous aurions « Cornelius ». C'est donc un « s » de nominatif qui est tombé. À la ligne 10, première ligne de l'inscription proprement dite, hoc oino, nous aurions en latin classique unum, c'est un accusatif, c'est un M qui est tombé. De même, à la ligne suivante, optimo, c'est optimum. Par contre, à la ligne encore après, ligne 12, lucium a son M d'accusatif. Donc il y a un flottement. Or, l'opposition nominatif, qui est le cas de la fonction du sujet grammatical, et accusatif, cas de la fonction du premier objet, est fondamentale en latin. La langue a donc procédé à une restauration d'un morphème flexionnel qui est le S. La langue a restauré le S à l'écrit et à l'oral. Et ce S va perdurer, puisque l'on trouve encore en ancien français dans la déclinaison morus et morum. Par contre, le M d'accusatif sera restauré à l'écrit, mais probablement pas à l'oral dans tous les niveaux de langue, et notamment pas dans la langue parlée quotidienne spontanée de la majorité de la population, c'est-à-dire des gens illettrés ou peu lettrés. Dans les inscriptions de Pompéi, en 79 après Jésus-Christ, où on a des inscriptions spontanées, ce M n'est pas noté généralement. Et on voit dans l'appendix probi de la fin du 7e siècle que... On dit passi au lieu de passim, on dit numquam au lieu de numquam, donc le M dans ces adverbes n'est plus prononcé. On peut donc en conclure que le latin, en restaurant le S, a en fait fait une réparation minimale, car à l'oral, il n'a probablement restauré de manière ferme que le S et pas le M. Et il suffisait effectivement que l'un des deux soit restauré pour que l'opposition entre S et 0 ou N puisse fonctionner. Un autre trait de cette instauration d'une nouvelle désinence distinctive pour remplacer une ancienne désinence qui avait perdu sa distinctivité, c'est la création du génitif pluriel en orum, du type dominorum, alors que le génitif hérité était en um. Mais « oum », ça donnait « o » dans les inscriptions archaïques, le « m », comme je l'ai dit, est débile, et donc ça faisait encore une forme qui se confondait avec l'accusatif. On a donc pris une nouvelle désinence qu'on a empruntée à la flexion pronominale. Donc, nous avons vu jusqu'à présent comment on restaure on améliore des formes qui menaçaient le système morphosyntaxique à cause de la désinence, la finale de mot. Dans le paragraphe 2, nous pouvons voir comment on établit une régularité et une unité des flexions, c'est-à-dire que l'on conforte le thème des unités lexicales. En gros, on peut dire que l'on modifie tous les faits qui étaient hors normes. Premier point, on déplace une désinence, par exemple dans ipsé, qui est fait de is plus psé. À l'origine, c'est le premier élément is qui se fléchissait, mais c'était anormal, puisque en latin, l'élément flexionnel est à la fin, donc on bascule l'élément flexionnel à la fin. Deuxième point, point 2.2, on a tendance à aller vers l'unité du paradigme, et notamment vers l'isosyllabisme. On évite des formes anomales et on régularise notamment des formes de nominatif singulier en ajoutant un élément morphologique qui va empêcher les phénomènes phonétiques perturbateurs, et de ce fait on protège l'intégrité du thème substantival. C'est le cas pour le nom du vieillard, ligne 4, Sénex. Le nominatif aurait donné cis, qui n'était pas cohérent avec le reste de la flexion, on lui ajoute un suffixe ex. De même pour le nom du jeune homme, Iouenis, Iouis, phonétiquement attendu et morphologiquement attendu, n'était pas conforme au reste de la flexion, on lui ajoute un élément i. Et ceci, qui sont des phénomènes lexicalisés, est confirmé par des faits occasionnels qu'on trouve dans des textes de bas niveau de langue, où on refait le nominatif de Bos en Bowis, qu'il est deux syllabes, le nominatif de Jupiter en Iowis, pareil, pour qu'il est deux syllabes. On connaît également, ligne 8, un suffixe latin qui a été étoffé pour ne pas subir les évolutions phonétiques normales. Le suffixe tic était hérité d'un européen et qui, au nominatif, donnait des formes monosyllabiques comme mens. Donc on a conservé ces formes comme mens et mors parce qu'elles étaient fréquentes, elles avaient une haute fréquence, mais pour les autres mots, on a élargi ce suffixe en tio au long n, donc un suffixe en n qui était beaucoup plus solide à l'oral et qu'on entendait très bien, ce qui convenait à un suffixe extrêmement productif. Le point suivant, c'est le blocage d'un traitement phonétique. La consonne labiovélaire quoi, qui est notée par QU, garde son appendice labiovélaire devant une voyelle d'avant, normalement, c'est-à-dire EI, mais perd son appendice labiovélaire devant une voyelle d'arrière OEI. Donc, dans la flexion du verbe suivre, c'est quoi ? On devrait avoir tantôt un radical sec écrit Q, tantôt un radical sec écrit avec un C. Et on a maintenu le quoi, donc sequor sequuntur, c'est-à-dire même devant des voyelles d'arrière. On appelle ça l'analogie, c'est en réalité le maintien de l'unité du paradigme. Passons au point numéro 3. Non, avant de passer au point numéro 3, j'ai deux remarques que je n'ai pas notées dans les deux appuyés, mais dont je voudrais vous parler. On observe dans le courant du latin une simplification pour ce qui est de la catégorie du genre grammatical. Normalement, en latin, il y a trois étapes. Il y a le masculin, le féminin et le neutre. Le masculin et le féminin étant hérités et ayant des points communs qu'on appelle le genre animé. Or, on observe dans les bas niveaux de langue, aussi bien en latin archaïque qu'en latin tardif, la disparition progressive du neutre. Elle n'est pas totale, elle est partielle. C'est-à-dire qu'on réduit de 3 à 2. Premier point. Et deuxième point, parallèlement, il ne reste plus donc le masculin et le féminin. On réduit les déclinaisons qui étaient au nombre de 5, on les fait passer à 2. Principalement, c'est-à-dire que la première déclinaison du type prosa va contenir des féminins, la deuxième du type dominus va contenir des masculins. Et donc, on arrive à une simplification des relations entre genre grammatical et flexion, puisqu'il va y avoir une relation biunivoque entre genre grammatical féminin et première déclinaison, genre grammatical masculin et deuxième déclinaison. C'est donc une simplification du système. et qui, à mon avis, est une optimisation du système. Alors, on passe au paragraphe 3, le maintien d'un seuil de distinctivité pour les unités lexicales. On sait que les phénomènes d'homophonie et d'homonymie sont constants dans toutes les langues, et John Lyons l'a bien montré à propos, par exemple, de l'anglais « bank », aussi bien établissement bancaire que la rive d'une rivière. Ce sont deux lexèmes différents, étant donné que les dénotés sont totalement différents. Dans ce cas, l'anglais n'a pas l'air d'être gêné par cette homonymie, mais il y a des cas où les homonymies ou les homophonies sont gênantes, et notamment pour les lexèmes grammaticaux de grande fréquence et qui sont incontournables. Le latin a vécu cette situation, ligne 20, pour la négation aod, H-A-U-D, et le coordonnant aut, ou bien, qui était à l'origine exclusif. Cette situation d'homonymie et d'homophonie, puisque ces termes ont une seule forme, est due au fait que le H n'est plus prononcé déjà à une époque prélittéraire dans la ville de Rome, et qu'à la finale, un D et un T sont neutralisés. De sorte que aut s'est maintenu, mais la négation aut a disparu, et elle n'est plus utilisée à l'époque classique que dans des expressions figées, aut dubius, il n'est pas dit de que, qui sont en outre très souvent des litotes, c'est-à-dire double négation, donc parfaitement lexicalisée. On observe également de tels phénomènes pour les deux coordonnants hérités par le latin, quae, qui est l'enclitique hérité de l'indo-européen, et qu'on trouve en sanskrit, en grec et dans d'autres langues, senatus populus quae romanus, et et, qui vient de eti, signifiant à l'origine encore. Quae, en latin de tardif, de bas niveau de langue et de langue parlée, va être éliminé par et, pour la bonne raison que quae n'est pas prototypique, puisqu'il est postposé, et qu'il a une voyelle brève, et que le latin, petit à petit, a éliminé les enclitiques. Donc il est remplacé par et, qui lui est tout à fait conforme, plus conforme du moins au système, et plus clair. Alors nous passons au quatrième point, un autre moyen de changer la langue est de compléter le paradigme verbal d'une langue donnée. C'est ce qu'on appelle la morphologisation, qui est une forme de grammaticalisation. Il s'agit en fait de combler ce qu'on appelle des lacunes morphologiques à l'intérieur du paradigme, c'est-à-dire que, ici, en particulier, dans le premier point, le latin avait un infinitif futur actif, il a fallu qu'il crée un infinitif futur passif pour avoir un parallèle, une symétrie entre les formes actives et les formes passives, et donc compléter le paradigme. Donc il s'est créé une périphrase compliquée, ligne 25, contenant un suppin plus iri, c'est-à-dire le passif du verbe irer qui veut dire aller. C'est donc une grammaticalisation du verbe aller, et nous sommes habitués à ce que les verbes aller dans plusieurs langues se grammaticalisent pour former des formes grammaticales de futur. C'est un trait, ce qu'on appelle un chemin de grammaticalisation, c'est un trait assez usuel. La particularité ici, c'est que le verbe aller est tellement grammaticalisé qu'il se met au passif, avec une désinence du passif en ayant. Alors j'ai donné quelques exemples dans les lignes suivantes, et à la ligne 30, j'ai reproduit l'explication habituelle de cette tournure un peu difficile. On part en général d'un passif impersonnel du verbe aller régissant un suppin, et ensuite, ce qui était l'objet du verbe est réinterprété comme un sujet. Donc c'est un phénomène de réanalyse, mais il faut considérer que globalement, le sens global de l'énoncé reste le même. Et c'est pour ça que la réanalyse a été possible, c'est que ces situations étaient en fait ambiguës et que la valeur sémantique était la même. En 4.2, on peut émettre une hypothèse. Ce serait que, en latin tardif, dans certains textes, et notamment des textes du 6e, 7e siècle, on pourrait voir en filigrane la naissance, l'émergence d'une nouvelle catégorie verbale, qui serait le participe parfait actif en latin. Alors, je reproduis là le contenu d'une thèse qui a été soutenue récemment à Paris 4, de Maryse Guénot. Alors, pourquoi peut-on dire cela? Parce que le latin n'avait pas de participe parfait actif. Il avait un participe présent actif, il n'avait pas de participe présent passif. Il avait un participe parfait passif, il n'avait pas de participe parfait actif. Et on peut se demander si, au fil de la latinité, on ne voit pas apparaître cette nouvelle catégorie du type « ayant chanté » ou « étant venu ». Maryse Guénot s'est donc fondée sur des textes du 6e et 7e siècle, mais ça vient de très loin puisque, alors nous passons là, en bas de la page 2, nous passons à la page 3, depuis le début du latin, les verbes déponents ont un sens actif et une forme passive. Et ça se maintient chez Grégoire de Tours, donc latin néo-latien. Reversus veut dire étant revenu, ce n'est pas un sens passif. Donc c'est quelque chose qui s'est maintenu tout au long de l'activité et qui a un peu brouillé les pistes pour ce qui est de la nature passive de ce participe parfait. D'autre part, Maryse Guénot étudie les constructions absolues, c'est-à-dire le participe, ce qu'on appelle le participe absolu, ablatif absolu, où on a un sujet à l'ablatif et un verbe au participe à l'ablatif, et elle émet l'hypothèse, ligne 4, que assez souvent, il y a co-référentialité entre l'agent implicite de la construction absolue et le sujet explicite du verbe principal. Ce qui est montré de manière plus claire, ligne 9, lorsque il y a inclusion du substantif désignant l'agent du procès participial dans la construction absolue, mais sous la forme du nominatif, car il est sujet du verbe principal. Bon, c'est un peu compliqué et c'est pas le moment d'expliquer cela, mais donc l'idée c'est qu'il y a co-référentialité entre l'agent du participe de la construction absolue et le sujet du verbe principal. Ayant chanté, il arriva à la ville. D'autre part, l'ordre des mots, ligne 14, est plutôt participe à l'initial. Donc, on a une structure apparente, ligne 15, en verbe plus sujet, participe passif plus substantif sujet, mais on pourrait considérer que derrière se cache une nouvelle structure en verbe plus objet, participe actif et substantif comme premier objet. Et donc on aurait là déjà, sans en avoir la forme, on aurait la fonction d'un participe parfait actif. On remarque que le point commun de ces deux analyses, c'est que le sens cabal de l'énoncé est le même et que le rôle sémantique de chaque entité est également le même. Alors, on peut passer au point 5. Il s'agit dans le point 5 de l'évolution dans le lexique, c'est-à-dire de l'apparition de nouvelles unités lexicales. Et on a, dans les cas que je vais citer, successivement lexicalisation, transcatégorisation et grammaticalisation. Un point extrêmement usuel en latin, c'est le point 5.1. C'est le fichement d'une forme flexionnelle et généralement un ablatif instrumental singulier. L'adjectif continuus, continuel, se fige en un adverbe continuo, de manière continue. Des substantifs comme causa, la cause, la raison, gratia, la reconnaissance, forment des espèces de prépositions, mais qui sont postposées parce qu'elles conservent la construction de leur origine nominale à l'ablatif. Et on constate qu'en français, dans « à cause de »,« grâce à », on a, en quelque sorte, des renouvellements cycliques à l'identique, actualisés avec les moyens linguistiques du français. Deuxième point, on a souvent l'agglutination de séquences de mots. Il y a là lexicalisation, transcatégorisation et grammaticalisation, puisque on passe d'un syntagme prépositionnel ou d'un syntagme du moins, à une seule unité lexicale. Dans ce que j'ai cité, de ce fait, cependant, c'est un adverbe, en latin et au modo, interea, On a des subordonnants ou des interrogatifs, pourquoi, pro modo, quoire. Et on a de nombreuses prépositions dans les langues contemporaines qui sont faites à partir de synthèmes prépositionnels contenant un substantif de sens lexical, anglais on the basis of, allemand aufgrund, français sur la base de, et très souvent sur des noms de parties du corps, en face de, in front of, ce qui correspond en fait aussi au latin ante, la préposition qui veut dire devant, et qui est le figement d'un locatif singulier d'un nom indo-européen ancien, du nom du visage, qui n'est pas attesté en latin, mais qui est attesté en titre. Le sixième point, c'est les évolutions qui sont à la fois lexicales et morphosyntaxiques. On part souvent d'un syntagme, et on arrive à une nouvelle unité lexicale après disparition de certaines frontières de morphèmes, et ce sont des phénomènes de grammaticalisation. Les travaux d'Antoine Meillet, qui ont lancé le mot de grammaticalisation, mettaient en exergue les lexèmes négatifs comme le français ne pas, où il montrait qu'il y avait dans le français contemporain pas une désémantisation, puisqu'à l'origine c'était un lexème de sens lexical, comme en ancien français ne goûte, ne nie, etc. Or, cela représente un renouvellement cyclique, ou ce que Meillet appelait un renouvellement en spirale de la formation de la négation standard en latin. Ligne 40, non, vient de deux mots agglutinés, ne oinum, qui veut dire littéralement pas un, oinum étant la forme du neutre singulier. Donc c'est la négation de l'infime scalaire, pas même un. Ne étant la négation standard indo-européenne, avec et bref, qui est bien représenté en sanskrit, en avestique, en vieux perse, en vieux slave, en lituanien, en gothique, en irlandais, etc. Et nous avons des traces, ligne 42, de cette situation intermédiaire où on n'est pas encore parvenu à non, dans les textes archaïques, on a encore noénim. Alors, nous passons à la page 4 de l'exemple 2. Il y a aussi grammaticalisation dans la formation d'autres lexèmes négatifs comme ni qui veut dire rien et nemo qui veut dire personne, mais cette fois la désémantisation est partielle car nil ne s'applique qu'à des entités inanimées et nemo qu'à des êtres humains, donc il reste des seuls de nature lexicale. Nil vient de neilum qui veut dire littéralement pas même une petite chose, c'est-à-dire en fait probablement le nil du haricot à l'origine qui devient une petite chose. La petite chose par excellence. Et je vous ai cité ensuite des passages de Varron qui expliquent que pour dire non illi, on dit nihili, donc on voit bien que nihil est parfaitement motivé. Des passages de Lucrèce qui est un archaïsant, donc qui garde des tournures négatives avec ilum, et de Lucilius à l'époque archaïque. Pour Nemo, ligne 6, c'est le même processus de négation de l'infime scalaire, mais cette fois l'infime scalaire c'est un être humain, pas un homme. Mais dans Nemo, on a une démotivation, car on trouve chez Claude Nemo homo. Donc Claude ajoute homo derrière Nemo, parce qu'il ne sait plus que dans Nemo il y a déjà homo. Ces phénomènes paraissent être des phénomènes de renouvellement cyclique si on les compare aux autres langues romanes. Mais si on regarde de manière générale la famille des langues indo-européennes, on s'aperçoit que ces mêmes mots, le nom de nombre 1 ou le nom de la chose, ont été utilisés par différentes langues, et notamment les langues germaniques, pas exactement pour la même structure, mais dans des structures similaires. Exemple, en vieux haut allemand, on a la négation renforcée qui équivaut au français non, qui vient de neoldom. L'anglais no one, personne, reproduit le neoldom du latin, mais on voit que ce n'est pas la même structure puisque c'est l'équivalent du nemo du latin, c'est pas l'équivalent de non. Le not de l'anglais, négation standard, vient du vieil anglais not, qui comporte la négation, puis un substantif signifiant chose, agglutiné. C'est le cas également pour l'allemand nicht. Et en anglais, on a nothing qui provient de la négation plus le nom de la chose et nobody. Donc, les mêmes mots ont servi, mais pas tout à fait la même chose. Néanmoins, on est dans des situations qui tournent un petit peu en rond, dans des situations très semblables. De même, le proprietif du latin se retrouve un peu dans l'allemand. Alors, je pourrais développer la grammaticalisation du mot latin « licet », qui est un verbe de modalité à l'origine et qui devient un subordonnant possessif dans la prose du latin tardif. C'est une grammaticalisation un peu délicate, mais on la comprend lorsqu'on compare avec ce qui s'est passé en français pour l'expression « il est possible que »,« il se peut bien que »,« il aura beau faire telle chose ». Dans le stade 1, ligne 22, l'iquette est suivie d'un subjonctif présent de possibilité pour un procès prospectif. Il est possible que tel événement se produise dans l'avenir. Et ça dérive vers une modalité un tout petit peu déontique. Il est permis que je veux bien. Dans le stade 2, derrière cette première proposition, on a une seconde proposition juxtaposée qui constitue avec la première une unité sémantique. C'est un diptyque. Et ça donne, en général avec « tamen » dans la proposition, « il est possible que tel événement se produise, cependant, tel autre événement se produira quand même. » En français, « il est possible qu'il me menace, cependant, je dirai quand même ce que je pense. Il aura beau me menacer, néanmoins, je dirai ce que je pense. » Donc, nous avons plusieurs exemples de ce genre en latin, même à l'époque classique. Ce sont donc des exemples précurseurs d'une zone intermédiaire, et de ce fait, les éditeurs n'osent pas considérer qu'il s'agit de la même phrase. Très souvent, ils mettent un point. Mais, dans l'exemple que j'ai cité à la ligne 32, l'éditeur de la CUF, donc chez ce qu'on appelle la collection du D, a mis une virgule, deuxième ligne, avec 7. Donc, on a déjà l'apparition d'un lexème qui sert à caractériser le premier terme d'un diptyque concessif, au sens de « ils peuvent bien faire telle chose ». De même, à la ligne 37, l'iquette est postposée. Donc, frémantomnes, subjonctif, « ils peuvent bien prospecter ». L'iquette, c'est possible. Dicam quod setio, je dirais ce que je pense. Malgré tout, je dirais ce que je pense. Au stade 3, on a désormais clairement une seule phrase régie par l'hypotaxe, subordonnée plus principale. Du genre, même s'il me menace, je dirai ce que je pense. Alors, j'ai donné un exemple de Quintilien, donc du 1er siècle après Jésus-Christ. Il n'y en a pas énormément au 1er siècle après Jésus-Christ, il faut vraiment les trouver. Par contre, on arrive à la page 5, au stade numéro 4, où on a un véritable diptyque en hypotaxe, subordonné plus principal, dans la prose tardive. Mais ce qui fait le changement, à mon avis, c'est que ce n'est plus un subjonctif de possibilité pour un procès prospectif, mais le subjonctif de subordination, qui n'a plus sa valeur pleine, qui n'a plus de valeur de possibilité. Et donc, ça donne à l'iquette la valeur d'un subordonnant concessif standard, bien que, quoique. On le trouve dans des récits d'événements qui se sont réellement passés, par exemple chez Égérie, ligne 8, à la fin du IVe siècle. Bien que je connusse déjà ces endroits, il fut nécessaire de repasser par là. Et les grammaires citent comme un signe précurseur à la ligne 11 le pseudo César, qui serait un lieutenant de César, écrivant dans une langue extrêmement disparate, tantôt élevée, tantôt basse, où on trouve effectivement un liquet qui n'est pas avec un subjonctif présent possibilité, mais avec esset gestum, pour un fait qui s'est déroulé. Bien que la sortie des assiégés se fût déroulée alors que les nôtres étaient pris par surprise, cependant, les nôtres repoussèrent les ennemis. Donc on a là un exemple de type tardif évolué, mais on est au moins 1er siècle avant Jésus-Christ. Pour la grammaticalisation, je pourrais citer dans le paragraphe 6.3 la grammaticalisation d'un participe parfait passif qui signifie tourner vers et qui va donner vers en français, qui va donner des adverbes directifs. En latin, c'est versus, dextro versum ou versus, vers la droite, brursum, vers l'arrière. Pour versus ad versus, donc on cite différents stades. Le stade 1, ligne 24, c'est encore un vrai participe. L'armée est tournée vers quelque chose. Pour le stade 2, il y a une ambiguïté. Ça peut être un participe apposé au sujet ou à l'objet, ou ça peut être déjà un adverbe. Au stade 3, on trouve versus derrière un toponyme. Exemple de la ligne 33 dans les lettres et Atticus de Cicéron, donc le niveau de langue le plus proche de la langue parlée. Vertibe amin turnis arpinum versus. Je me suis dirigé en quittant Minturne en direction d'Arpinum. On se demande là si c'est versus apposé au sujet ou si c'est déjà une postposition figée. Je pense que c'est déjà une postposition figée parce que c'est trop fréquent pour être un simple participe apposé, comme vous voyez dans les exemples suivants. Dans le stade 4, c'est un vrai élément de relation, une postposition au sens de « en direction de » puisqu'il fonctionne avec un nom cardinal occidentem versus en direction de l'Occident. Et on a là les prémices de la préposition française vers. Les solutions qu'il faut, enfin les situations charnières sont à retrouver en fait dans des cas ambigus comme ceux que je vous ai cités. Le sens global de l'énoncé reste le même, que l'on interprète la tournure selon l'ancienne formule ou la nouvelle formule. Alors j'arrive à la page 6. Paragraphe 7, les réanalyses dans le lexique. Je crois qu'il faut en distinguer deux. D'abord, la réanalyse par étymologie populaire, qui est justifiée. C'est l'influence du sujet parlant ou d'une pluralité de sujets parlants sur la langue. Le sujet parlant réinterprète un mot en fonction de ce qu'il pense être caractéristique de l'entité. Donc des traits saillants de l'entité. C'est très fréquent dans les noms de plantes, parce que ce sont les populations illettrées qui connaissent le mieux les noms de plantes, et elles sont soumises à des réinterprétations constantes. Jacques André, dans son lexique des noms de plantes, cite Cardopanus, le chardon mobile, c'est un agglutiné de deux mots, qui a été réinterprété comme panis cardus, c'est-à-dire le pain chardon, panis le pain, puis panis caldus, le pain chaud, ce qui a donné notre français panico, donc ça a une certaine vivacité dans la langue courante, et même panis candidus. Donc il avait une couleur blanche et on l'a interprété comme ça. Mais il faut distinguer de ces étymologies populaires qui sont justifiées par les recréateurs, les réinterprétations translinguistiques que l'on trouve notamment au moment de l'emprunt lexical et que je préfère appeler des réhabillages lexématiques. Du français à l'anglais, on voit par exemple qu'une pierre qu'on appelle en français pierre bleu-jaune est réinterprétée par blue john stone. C'est-à-dire qu'on réhabille jaune dans le lexème qu'on trouve le plus proche. Évidemment, la séquence phonologique n'est pas exactement la même. Le mot, on ne tient pas compte du tout de la valeur sémantique dans le référentiel de John, mais ça ressemble. C'est l'origine également de « a mayday », qui est un SOS, qui vient du français « m'aider » dans une phrase injonctive « venez m'aider ». Et c'est l'origine d'une expression anglaise qui n'est plus en usage maintenant parce que les gens sont tous morts, les gens qui l'utilisaient sont tous morts, mais qui a été en usage jusqu'à maintenant, ça ne fait rien, qui vient de l'expression française ça ne fait rien, qui a été rapportée par les soldats britanniques qui se sont battus sur la Somme au chemin des Dames en Angleterre après la Première Guerre mondiale. Alors, si vous prenez le passage du grec au latin, il y a des choses comme ça dans les noms de plantes. Par exemple, caniculata la juschiam, qui est une plante, vient du mot grec calyx, qui veut dire le calice de la plante, donc une sorte d'enveloppe ou de bouton de la plante, et ça a été réinterprété par le nom du chien canis, parce que dans le vocabulaire vernaculaire du latin non emprunté au grec, le nom du chien a une forte importance à cause de la forme de la feuille en forme de patte de chien ou de poil du chien ou autre. Alors, nous passons à 8. La réanalyse entre syntagme et lexique avec disparition d'une frontière de morphème, ce sont des phénomènes extrêmement fréquents pour des mots grammaticaux ou lexico-grammaticaux. C'est pratiquement l'origine de tous les verbes de modalité en latin. Et beaucoup d'entre eux ont des interférences avec la négation. Nécesse est pour la négation déontique, devoir, il est nécessaire, vient d'une locution nécessis est ou nécessus est, il n'y a pas d'échappatoire à, avec restructuration, réinterprétation. De même, nequeo vient d'une tournure nécoutour, cela ne va pas. Possum vient d'une tournure potises, il est capable de. Ce phénomène a été montré pour la formation des indéfinis, point 2, notamment par Marie-Josée Béglin, mais par bien d'autres gens. Marie-Josée Béglin l'intitule « De l'aveu d'ignorance à l'indéfini ». Et elle traite de « Je ne sais qui est venu, je suis allé, je ne sais où ». Quand on connaît le latin, on pense qu'il doit s'agir d'un renouvellement cyclique avec l'actualisation, car nous avons exactement la même chose en latin, « Nescio quis », »,« Je ne sais qui ». Et si vous regardez à la ligne 38, « Nescio ubi », »,« Je ne sais où », il me semble que je l'ai déjà vu, je ne sais où. Regardez maintenant l'exemple de Cicéron dans les lettres et Atticus, donc un niveau de langue familier, ligne 39-40, Nescio quo. Il s'agit d'un personnage qui est Sextus Pompée, le fils de Pompée. On m'a dit qu'il était sorti de Cordoue et qu'il avait fui en Espagne et Citérieure, que Gnaeus s'était enfui, je ne sais où. Et cela, en fait, m'est indifférent. Donc, c'est vraiment un aveu d'ignorance. Donc, à mon avis, un renouvellement cyclique en français. Si on regarde maintenant la page 7, vous avez la même chose pour Nescio quare, je ne sais pourquoi. Nescio quo, je ne sais par qui. Donc, je pourrais, pour le point 3 à la ligne 5, développer les grammaticalisations du verbe vouloir pour former des indéfinis du genre cruis, des conjonctions de subordination concessive scalaire à l'origine, quavis, à quelques degrés que tu le veux, qui deviennent des conjonctions standards, bien que, c'est le paragraphe 8.3, je passe là-dessus, j'en arrive aux adverbes de modalité, paragraphe 8.4, la formation des adverbes signifiant peut-être. Ils sont faits avec le verbe « pouvoir » plus un infinitif du verbe « être », comme le français. Pour le français, on va dire « c'est une réflexion à l'identique, un renouvellement cyclique par rapport au latin ». Vous avez le latin à la ligne 23-24. « Forcitan » peut-être, qui vient de « force citan », le hasard serait que. Donc il se peut. Mais quand on regarde l'anglais, le vieil anglais, on voit que « maybe » a la même origine. On trouve la même chose en vieux frison, vieux saxon, vieux haut-allemand, vieux norrois et gothique. On le trouve même en incise, comme c'est le cas pour peut-être en français, et forcitan en latin. Par conséquent, c'est plutôt au-delà, disons, du renouvellement cyclique à l'intérieur d'une même chaîne synchronique, ça peut être un phénomène de grammaticalisation très répandu. En 8.5, je pourrais développer les évolutions de grammaticalisation de certains adverbes à valeur pragmatique et locutoire, comme scilicet, assurément certes, qui vient de scireliquet, littéralement, il est possible de savoir que. Videliquet, évidemment, assurément, vient de videreliquet, il est possible de voir que. Ce sont évidemment des adverbes illocutoires qui ont des intonations variables. Ce assurément peut être une affirmation ou au contraire ironique. Donc, ça donne des résultats totalement opposés. Donc, je crois que j'ai quand même le temps de détailler les différents stades. Si on prend ce qu'il y est, on pourrait faire la même démonstration avec l'idée du quai. Le stade 1, c'est le syntagme verbal libre complet, ce qui est l'iquette, plus proposition infinitive. Il est clair que, on peut savoir que, il est possible de savoir que. Qu'on trouve chez Lucrèce, parce que Lucrèce est un auteur archaïsant et qu'il utilise des expressions qui ne sont plus usuelles à son époque. Il est clair que ces éléments ne sont pas mêlés de cette manière. Deuxième stade, on a ce qu'il y quête, donc le mot est amalgamé, agglutiné, il y a un seul mot, hein, puisqu'on n'a pas deux mots, ce qu'il y quête, avec disparition de la syllabe ré dans la formation du nouveau verbe, qui est le verbe principal, et il est construit avec une proposition infinitive. Donc c'est encore un verbe principal, puisqu'il a encore la construction de ce qu'il y quête. On le trouve chez Varron, donc au moins 1er siècle. Scilicet genera eitria paranda. Donc celui qui aspire à avoir un poulailler, oui, je prie de m'excuser, mais il décrit comment avoir des poulaillers, l'utilité au propriétaire foncier des poulaillers. Pour avoir un poulailler parfait, il est clair que cette personne doit se procurer les trois espèces de poules, et surtout des poules de basse-cour. Donc Scilicet est construit avec une sorte de proposition infinitive. Genera ei, tria, parenda, sous-entendu, esse. On a donc une structure hybride. Le mot est déjà agglutiné, il est en un seul mot, et pourtant la construction, il est donc encore verbal, la construction est verbale. Et puis, on arrive au stade 3, où ce qu'il y quête est un adverbe avec des intonations différentes. Exemple chez Terence dans un dialogue à l'époque archaïque, donc déjà présent très largement à l'époque archaïque, ce qui signifie que tous ces stades coexistent dans une synchronie identique. Quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, mon cher Crémès, j'ai eu tort, je l'avoue, et l'autre répond, assurément, pour ma part, je te pardonne. C'est donc une valeur de modalité affirmative. Alors, on pourrait montrer la même chose avec Nimirun, qu'on traduit par bien sûr assérément, mais qui provient de Mirun est ni. Il serait étonnant si ne pas. Ou bien, à mon avis, il ne serait pas étonnant si. Cela ne serait pas étonnant. Alors, on arrive au paragraphe 9, qui est le dernier. C'est la réanalyse en morphosyntaxe à partir de situations ambiguës et en fait un passage du nominal au verbal. Mais c'est un phénomène bien connu dans les langues indo-européennes anciennes. C'est un cas de morphologisation, c'est-à-dire de création d'une nouvelle catégorie verbale à l'intérieur du paradigme. Donc un cas particulier de grammaticalisation et, comme je l'ai dit, il est bien connu. C'est en fait la formation des infinitifs dans les langues indo-européennes. Ligne 4-5, on le voit bien en sanskrit védique, donc dans les plus anciennes strates qui nous sont conservées des textes sanskrits, il y a des infinitifs qui sont des noms de procès figés au datif, au locatif, à l'accusatif, etc. Et ce qui s'est imposé en sanskrit classique au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est pour l'infinitif classique, le nom de procès, en tout, tout étant un suffixe de nom de procès, figé à l'accusatif singulier, donc l'infinitif du sanskrit classique est en tout nom. Or, il se trouve que le supin a cette forme, mais on ne l'appelle pas infinitif, on l'appelle, le latin a cette forme, on l'appelle supin. Supin en tout, qui est un accusatif directif derrière un verbe de mouvement. Donc c'est une forme qui est très contrainte sur le plan syntaxique, on ne la trouve que derrière un verbe de mouvement, et d'ailleurs, elle est bien représentée à l'époque archaïque, mais elle n'aura pas beaucoup de succès par la suite. Elle va être remplacée par l'infinitif. Mais, on le voit, ligne 7, « Misit filium mercatum », c'est une vraie forme verbale, il envoya son fils, et il envoya pour le fait de faire du commerce. « Mercatum » est un supin, c'est une forme verbale, mais c'est aussi historiquement le substantif mercatus, le fait de faire du commerce. avec un accusatif directif. C'est malgré tout une forme verbale, puisque comme on le voit en 9, les supins ont une réaction verbale à l'accusatif. J'irai chercher, croyez-vous tout, mais du feu accusatif. Mais l'origine nominale est encore visible, puisqu'on trouve chez Caton, dans l'exemple qui est cité à la ligne 12, le symétrique du supin en tum qui est directif, c'est-à-dire un ablatif d'origine en ou. Caton donne des conseils aux propriétaires fonciers pour gérer leur fermier, et il dit que le fermier doit être le premier à se lever le matin et le dernier à aller se coucher. Donc primus cubitus surgat, il se lève loin du fait d'être couché, cubitus ablatif d'origine, et postremus pour le dernier, cubitus meat, il aille vers le fait de se coucher. Ce qui prouve que si on a pratiquement que le supin à l'accusatif en tum qui se soit vraiment morphologisé, parce que le supin au datif est quand même moins fréquent, il aurait pu y avoir, et il y a peut-être eu, un supin à l'ablatif d'origine, mais qui est ambigu. Ça peut être une forme nominale ou une forme verbale. Alors, j'en arrive à la conclusion. S'il faut parler des contraintes qui pèsent sur la langue et sur l'évolution linguistique, il me semble que le bon fonctionnement du système morphosyntaxique est très important, mais le problème de désinence, comme on l'a vu, est plus important que le problème du thème, du moins en latin classique. On sait bien que par la suite, les désinences vont fléchir un petit peu et connaître des restrictions importantes. Donc, en latin archaïque, on restaure certaines désinences indispensables et on contrecarre les traitements phonétiques, on répare des faits anomaux, on change des faits morphologiquement attendus pour les réparer parce que phonétiquement ils ne passaient pas, on élimine des formes de lexème qui ne sont pas assez claires à l'oreille, on tend vers des flexions nominales régulières avec l'isosyllabisme. Et je pense que ce qu'on appelle traditionnellement analogie, c'est peut-être l'une des formes de cette tendance à la conformité avec un modèle productif et des schémas préexistants. Une régularisation, au fond, des faits déviants dans le système. Et on voit là tout le poids du système qui est en place et qui est mémorisé par la communauté linguistique. Je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que on a souvent tendance à dire que lorsque les langues évoluent, il se passe une détérioration et que le système est de plus en plus confus et de plus en plus irrationnel. Or, on voit que quand on examine les faits de près, au contraire, les tendances de la langue qui vont contre la phonétique sont des tendances à la rationalisation, à l'amélioration, à la simplification, pour les flexions déjà grammaticales. Et les formes verbales, par exemple, d'irrégulières qui se maintiennent, sont seulement celles qui ont une très haute fréquence. Ou celles du verbe être, du verbe avoir, du verbe venir, du verbe aller, en français. Et en latin. Et deuxième point, certes, les changements phonétiques sont inéluctables, globalement, sur des longues périodes de temps. Et ces changements échappent au contrôle de la communauté linguistique. Cependant, ponctuellement, lorsque cela est nécessaire parce que le système morphosyntaxique est en danger, la communauté linguistique peut remédier à ça. Elle intervient. Et quand elle intervient, on l'a vu pour la désinence à l'époque archaïque du S de nominatif qui est restauré, alors que le M ne l'est pas nécessairement, on a l'impression qu'elle intervient au minimum. Elle aurait pu restaurer les deux à l'oral, elle ne resterait que la première, parce que l'autre se déduisait de la première. L'opposition était entre un S et rien du tout, probablement dans la langue parlée spontanée des bas niveaux de langue. Il faut donc, me semble-t-il, penser que quand la langue change, elle change peu de choses si elle le peut, dans la mesure du possible, elle change moins de choses, et que derrière ces changements diachroniques, qui sont souvent très importants, il y a néanmoins une certaine force d'inertie du système. Voilà, merci de m'avoir écouté.